Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Téhéran, 1953. Le premier ministre Mossadegh a nationalisé quelques mois plus tôt l'industrie du pétrole. La France entend jouer un rôle de conseiller technique, mais se heurte à une conspiration menée par la CIA, l'opération Ajax. Ainsi commencent les chroniques diplomatiques, premier tome d'une nouvelle série en bande dessinée, publiée aux éditions du Lombard, dont l'ambition est d'éclairer l'histoire récente en s'appuyant sur une documentation abondante et précise. Le dessin de Christophe Simon se prête parfaitement à l'époque. Quant au scénariste Tristan Rouleau, il réussit à donner à la narration une perspective très moderne. Tristan Rouleau est notre invité. En seconde partie d'émission, comme chaque samedi, nous lisons la presse régionale avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Tristan Rouleau.
Bonjour Éric Bataillon.
Scénariste de ces chroniques diplomatiques en bande dessinée consacrées à l'Iran et publiées aux éditions Le Lombard, nous sommes en ligne avec vous depuis Montréal, au Canada. Tristan Rouleau, pourquoi avoir choisi précisément l'année 1953 ?
Alors ça vient d'une rencontre avec le dessinateur Christophe Simon, qui était très intéressé justement par illustrer les années 50. Et donc en échangeant sur les débuts du projet, moi je voulais partir sur la diplomatie française. J'avais plutôt l'idée d'être peut-être avant-guerre, peut-être au tournant des années fin 1800. Et finalement, donc on est parti dans les 1950 et là j'ai cherché un événement un peu crucial qui mette en valeur la diplomatie de française à cette époque-là. Et donc en cherchant, on arrive sur l'année 1953, qui est intéressante parce que c'est le premier coup d'État de la CIA qui a été créé il n'y a pas si longtemps à ce moment-là, et la première coup d'État extérieur menée par les États-Unis finalement.
Alors pour reconstituer les événements et écrire votre scénario, sur quel document vous êtes-vous appuyé ?
Alors justement, ce qui est intéressant quand on se penche sur les années 50 aujourd'hui, c'est que on remonte à presque 70 ans, et donc les archives sont déclassifiées, y compris ce qui est secret défense. Donc on a accès vraiment à du matériel de première main, et notamment tous les transcripts de la CIA, qui sont disponibles en ligne et qu'on peut fouiller allègrement, mais aussi les archives du Quai d'Orsay, par exemple. Donc, on peut avoir toutes les communications de l'ambassade au quotidien et voir comment la France perçoit ce qui se déroule là-bas, les rapports un petit peu complexes de la France avec les services secrets britanniques qui ont été chassés d'Iran l'année d'avant par Mossadegh. Donc, toutes ces informations-là permettent de tricoter un scénario, on va dire, très documenté.
Donc, vous êtes appuyé sur les archives du Quai d'Orsay, donc françaises, aussi sur celles de la CIA, déclassifiées. Avez-vous eu accès aux archives iraniennes ?
Alors, non, ni aux archives iraniennes, ni aux archives anglaises, puisque les Anglais ne déclassifient pas leurs documents.
Et côté iranien, avez-vous fait une demande pour avoir ces archives éventuellement ?
Non, ce serait compliqué parce que déjà je ne parle pas persan et il aurait été très dur d'avoir pour moi l'occasion de fouiller là-dedans. Mm-hmm. Donc je me suis contenté effectivement des événements côté américain et leur perception par les Français.
Pour les besoins de la bande dessinée Tristan Rouleau, bande dessinée qui reste une fiction évidemment, quelle liberté avez-vous pris avec la réalité des faits ?
Alors, pas énormément puisque, on va dire, les événements aujourd'hui sont très bien connus, donc je ne pouvais pas jouer avec ça et je dirais même que le scénario qui s'est déroulé est déjà extrêmement surprenant, extrêmement vivant. Je n'avais pas besoin de jouer avec ça. C'est déjà une histoire absolument incroyable. Ce qui était intéressant, par contre, c'était d'avoir des héros avec lesquels le lecteur pourrait,
s'identifier.
Connecter. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc j'ai inventé ces deux héros qui sont deux diplomates français et dont l'ambassadeur de France à Téhéran.
On peut les appeler.
L'ambassadeur finalement historique, qui était François Coulet à l'époque, un ancien résistant, et donc voilà, qui donc pour les besoins de mon intrigue a dû disparaître de la grande histoire.
Alors à la lecture, on imagine le rôle central joué par l'ambassadeur de France à Téhéran, justement, et l'oreille complaisante que lui porte, en tout cas dans la BD, Mossadegh, le premier ministre iranien. Est-ce romancé ou est-ce plutôt conforme à la réalité ?
Alors, je me suis inspiré justement de toutes les communications que faisait l'ambassade et les services de l'ambassade à Téhéran qu'ils envoyaient ensuite à Paris. Et donc, la France avait une position très très ambivalente vis-à-vis de l'Iran. D'un côté, une envie de se découvrir ou de trouver des nouveaux marchés à explorer pour la France, mais aussi une méfiance vis-à-vis de ce Premier ministre, le docteur Mossadegh, très très fantasque. Et donc, on sentait de la part de l'ambassadeur de l'époque une sorte de mépris vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, dont je me suis affranchi pour avoir deux héros plus idéalistes, plus positifs, qui permettent, je dirais, à la BD de mieux respirer.
Mais la France a-t-elle, à cette époque, tenté d'aider le gouvernement Mossadegh contre les Anglais et aussi contre les Américains? C'est ce qui ressort un peu de votre bande dessinée.
Alors, tout à fait, puisque, justement, il y avait un juriste, M. Gidel, donc un juriste français, qui était chargé d'étudier les statuts de la société qui exploitait, la société britannique qui exploitait le pétrole iranien, et devant notamment le tribunal de La Haye. Donc, les Français avaient justement cette espèce de, comment dire, de rapport avec Mossadegh, d'un côté de lui fournir des moyens de se défendre contre les Anglais, et en même temps, eux-mêmes étant très liés avec les Américains et les Anglais, de ne pas non plus froisser leurs alliés. Donc, une position un petit peu intermédiaire qu'on met en valeur dans l'album.
Il y a d'ailleurs aussi un autre Français qui intervient dans cette bande dessinée, qui va à Téhéran, en Iran. C'est le directeur d'une grande agence pétrolière française.
Voilà, alors ça c'était justement pour avoir le pendant un petit peu plus réaliste par rapport à nos deux diplomates idéalistes. Donc voilà, quelqu'un qui travaille pour la Compagnie française des pétroles, dont on sait à la fin qu'elle a obtenu, suite au renversement du gouvernement, des parts dans la nouvelle société qui exploitait le pétrole en Iran, aux côtés des Anglais, des Britanniques et même des Hollandais. Donc on sent qu'il y a une sorte de micmac autour du pétrole iranien, et c'est ça qui était intéressant de mettre en scène.
Alors les principaux protagonistes côté français, mais aussi Hossein Fatmi côté iranien, semblaient se connaître déjà à Paris, réel ou imaginaire?
Alors oui, aussi bien Mossadegh que Hossein Fatmi ont fait leurs études à la Sorbonne, ou en tout cas en France. Donc il y a eu beaucoup de connexions, d'ailleurs à cette époque, entre des dirigeants de nombreux États et les élites françaises, on va dire. Donc ce qui a donné, après coup, la France-Afrique. Donc voilà, et on le trouve, c'est ce que je mets aussi en scène, avec les deux diplomates qui ont fait leurs études avec le ministre des Affaires étrangères, et du coup qui ont un rapport un peu plus personnel, qui est intéressant à développer.
Vous voulez dire que Mossadegh, par exemple, était un francophile et qu'il voyait d'un bon œil les Français lui donner un coup de main en cette année 53?
Alors, en tout cas, il avait eu, je crois qu'il a fait aussi ses études en Suisse. Donc, c'est quelqu'un qui était très au fait des démocraties occidentales et européennes. Il voyait surtout d'un œil très intéressé le fait que la France puisse fournir des ingénieurs capables d'exploiter le pétrole iranien, dont lui n'avait pas les ressources pour le faire. Une fois qu'il avait chassé les Anglais, plus personne ne pouvait exploiter son pétrole. D'où l'intérêt de faire venir des ingénieurs français. Et c'est ça qui était un petit peu en discussion pendant cette période-là avec les diplomates français.
Un mot des motivations américaines pour organiser le coup d'État, l'opération Ajax, je crois. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire. Était-ce pour récupérer le pétrole ou pour autre chose?
Alors, il y a deux pendants à cette histoire. Alors, l'opération Ajax, en fait, plus exactement TP Ajax, puisque c'est le QD Party, le Parti communiste iranien, et l'opération Ajax, on pourrait croire que c'est le héros grec, mais pas du tout. C'est le nettoyant pour toilette. Donc parce que voilà, ils avaient envie de nettoyer l'Iran des communistes. Donc il y avait, sur fond de guerre froide, il y avait cette volonté de ne pas faire basculer l'Iran, qui était à ce moment-là en cherche d'alliés, du côté des Russes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le pétrole iranien, qui effectivement était une denrée extrêmement précieuse. Et c'est un moyen pour les Américains de faire une pierre deux coups, finalement.
Et de récupérer une partie de ce pétrole sur le dos des Anglais.
Exactement, puisque les Anglais ayant été chassés, et étant eux-mêmes en recherche d'alliés pour retrouver leurs précédentes ressources, finalement, eh bien, les États-Unis ont joué pendant quelques temps le rôle d'arbitre entre Mossadegh et les Anglais, pour finalement se ranger aux côtés des Anglais, en échange d'une bonne prime sur leur pétrole à l'arrivée.
Oui, ils récupéreront 40% de la nouvelle compagnie qui va être créée, qui est BP, je crois.
Ils vont faire une société d'État, on va dire, dans laquelle les États-Unis auraient 40%, BP aurait peut-être 20%, je ne me souviens plus des chiffres, et puis la Société française des pétroles aurait peut-être 4%, quelque chose comme ça.
Autre élément intéressant, Tristan Rouleau, c'est la faiblesse du Shah d'Iran à l'époque, qui se laisse manipuler aussi bien par les Américains que par les islamistes de l'ayatollah Kachani. Est-ce que finalement il y a en germe en 1953 ce qui se passera en 1979 avec l'ayatollah Khomeini?
Alors c'est vrai que Mossadegh était plus profondément anticlérical. C'est un démocrate convaincu. Il a essayé de donner le droit de vote aux femmes avant justement d'être renversé. Il s'opposait donc aux mollahs et à tous l'aspect très religieux de la société iranienne qui voyait dans le Shah d'Iran quelque part le garant de leur autorité. Donc le Shah d'Iran était en même temps assez fade. C'est assez étonnant quand on voit justement toutes ces documentations sur le sujet. Dans un peu d'un pied sur l'autre, il était un peu écrasé aussi par le souvenir de son père qui était un tyran très puissant. Donc voilà, quelqu'un d'un peu mou et très dominé d'ailleurs par sa sœur jumelle. donc qui sera d'ailleurs mandaté par les Anglais pour le convaincre de signer ces décrets en blanc pour renverser le Premier ministre.
Tristan Rouleau, y aura-t-il une suite à cet album ?
Alors oui, puisque c'est une série, on va suivre nos deux diplomates un peu à travers le monde, des fois sur des histoires de guerre froide, des fois sur d'autres sujets qu'on va découvrir au fur et à mesure. L'idée, ça serait de faire un tome par année, donc l'année prochaine, c'est-à-dire en 1954, on part en Birmanie, donc sur fond de bouddhisme, qui deviendrait donc la religion d'État, avec les dérives qu'on connaît aujourd'hui.
Toujours avec Christophe Simon au dessin ?
Tout à fait. Son style, justement, un peu vintage, donne un fumet très classique à la BD et ça va très bien, en fait.
Allez-vous revenir sur l'Iran ou sur un autre pays de la région plus tard, dans les années 60 ou 80 ?
Alors, j'ai l'ambition assez rapidement de revenir dans les environs, puisque je voudrais traiter de la crise de Suez qui arrive en 56. Donc peut-être par un petit détour en Israël juste avant, en 55. Donc voilà, et puis peut-être plus tard revenir aussi en Iran. On verra suivant le succès de la série.
Merci Tristan Rouleau.
Eh ben, je vous en prie, merci Éric Bataillon.
Scénariste de la bande dessinée Chronique diplomatique, édité chez Le Lombard et recommandé par un magazine spécialisé dans l'histoire, ainsi que évidemment par Orient Hebdo.
Orient Hebdo sur RFI.
Après la BD, le cinéma, le 12e festival Panorama dans le sud de la France s'intéresse au 7e art du Proche et du Moyen-Orient dans diverses salles et lieux culturels répartis sur le territoire d'Istres, Fos-sur-Mer. Le public peut visionner jusqu'au 17 octobre plus de 30 films venus d'Afghanistan, d'Iran, Palestine, Liban, Syrie, Turquie, Égypte et Israël. Égypte et Israël, où nous allons maintenant, puisqu'Alexandre Boutchantier et Michel Paul nous attendent au Caire et à Jérusalem pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Cette semaine, vos journaux vont puiser leur inspiration dans le passé et l'histoire, et en particulier la guerre de 1973. En Égypte, Alexandre, le 6 octobre est devenu une fête nationale et c'est l'occasion pour vos journaux de revenir sur l'événement et les participants.
Tout à fait, et pour la presse égyptienne, ça s'appelle la victoire d'octobre. Alors, une victoire qui, pour les Égyptiens, consistait à franchir le canal de Suez et à prendre la ligne de défense israélienne Barlev. L'occasion pour les journaux d'interviewer des héros qui ont participé à l'événement. Des héros de moins en moins nombreux, puisqu'ils ont 70 ans au moins. Cette année, on parle aussi dans la presse panarabe d'un personnage plus contesté, Ashraf Marwan. La raison est la publication par la presse israélienne d'archives remontant à 1973 et où Marwan figure. Les journaux arabes refont sa biographie. Marwan, militaire de carrière qui avait épousé la fille du président Gamal Abdel Nasser, y devient proche conseiller de son successeur Anwar Sadat, qui prépare la guerre pour reprendre le canal et le Sinaï aux Israéliens. Marwan informe le Mossad des intentions de Sadat. Mais ce qui relèverait de la trahison est présenté par la presse arabe comme un subterfuge visant à embrouiller les Israéliens qui finalement n'ont pas vu l'offensive égyptienne venir. Mais le 6 octobre a aussi été, selon les journaux, l'occasion pour le président Abdel Fattah el-Sissi de revenir sur la paix qui a découlé de cette guerre et les bienfaits du traité avec Israël.
Michel Paul, dans les journaux israéliens, il est aussi question cette semaine de la guerre d'octobre 1973.
Retour en arrière également donc dans la presse israélienne, Eric, avec l'ouverture 48 ans après d'archives sur ce que l'on appelle ici la guerre du Kippour. Ils ont malgré tout réussi à nous prendre par surprise, proclame la première ministre Golda Meir. Des détails aussi sur les contacts avec Ashraf Marwan qui symbolise plus que tout aux yeux des Israéliens le fiasco de cette guerre. Le chef du Mossad, Tzvi Zamir, qui se rend à Londres 14 heures seulement avant le déclenchement des hostilités pour rencontrer l'espion égyptien qui lui révèle le plan égypto-syrien. Un renseignement transmis à l'échelon politique israélien qui n'en tient pas compte, pensant qu'il s'agit de pure contre-information. Eric, aujourd'hui encore, le débat se poursuit en Israël. Au sujet du passé, l'affaire de la disparition de Ron Arad, l'aviateur israélien fait prisonnier par le groupe chiite libanais Hamal il y a 35 ans et disparu pour toujours. Deux ans plus tard, le Premier ministre Bennett révèle que le Mossad renouvelle ses efforts pour trouver le fin mot de l'histoire. Pas de détails côté israélien, mais d'autres sources affirment qu'un général iranien a été enlevé et interrogé à ce sujet, cela s'est passé en Afrique, et des agents israéliens ont procédé à des prélèvements d'ADN dans un cimetière de Baalbek au Liban, une affaire qui engendre des frictions politiques en Israël.
Un tout autre sujet, Alexandre, selon un reportage, l'huile d'olive serait une nouvelle victime de la crise libanaise.
Oui, 14 millions d'oliviers sur près de 60 000 hectares et presque pas de main-d'œuvre ou de machines, selon un reportage publié par Sharq al-Awsat. Du fait de la dévaluation de la lire libanaise, les salaires des ouvriers ont explosé, comme le prix des pièces de rechange pour les machines, sans oublier la pénurie de carburant. Résultat, on cueille les olives à la main et avec des amateurs, les membres de la famille, d'où une perte en quantité. Il y a aussi une perte en qualité due au manque d'attention donnée aux arbres du fait de l'absence de main-d'œuvre. C'est toute la cuisine libanaise qui est aujourd'hui menacée, conclut un éditorialiste, une cuisine qui n'existe pas sans l'essentiel huile d'olive.
Michel, d'autres sujets qui font l'actualité cette semaine en Israël?
En bref, la diplomate et politicienne Colette Avital accuse l'ex-président Shimon Peres de harcèlement sexuel. Dans une longue interview au quotidien Haaretz, elle relate plusieurs de ces incidents. Aujourd'hui encore, affirme-t-elle, on chuchote que j'étais la maîtresse de cet homme que j'ai beaucoup admiré. À la une aussi, 2619 internes des hôpitaux israéliens présentent leur démission pour protester contre leurs conditions de travail. Ils réclament notamment des périodes de garde moins longues. Coronavirus chiffre en baisse. Un article du quotidien Haaretz explique comment les campagnes vaccinales en Israël ont évolué selon les dirigeants politiques au pouvoir. Et sur la sellette également, le ministre de la Défense Benny Gantz, avec cette remarque d'un commentateur, c'est triste à dire, mais il semble que Benjamin Netanyahou ait eu raison à son sujet.
Et la photo que vous avez retenue, Michel?
Eh bien, c'est la photo de toilettes vieilles de 2700 ans qui viennent d'être mises au jour à Jérusalem. Elles remontent donc plus ou moins à la période du premier temple. Des toilettes en calcaire lisse et sculptées dans une cabine rectangulaire qui faisait partie d'un manoir tentaculaire surplombant ce qui est maintenant la vieille ville de Jérusalem. Une découverte très rare selon les archéologues qui affirment que c'était le comble du luxe à l'époque.
Merci Michel pour ce rappel de l'importance historique de l'hygiène. Et merci également Alexandre. در دام افتادم از غم آزادم دل به تو دادم فتادم به من ای گل بر اشک خونینم بخند سوزم از سوزه نگاهت هنوز چشم من باشد به راحت هنوز. Mathias Golshani a réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo que vous pouvez réécouter en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, l'ancien ministre libanais Charbel Naas viendra nous parler de la situation du Liban et aussi de son mouvement citoyen et citoyenne dans un État qu'il a fondé en 2016. À demain donc, dans un instant, le journal.